Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous recevons un jeune romancier. Il n'a pourtant rien d'un débutant. Après de nombreuses publications universitaires autour du vin ou de la géographie, vous l'avez peut-être reconnu grâce à ses deux passions. Il s'agit de Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Cette année, pour la première fois, il s'est lancé dans la fiction en racontant la vie de Dardanus, une âme forte au crépuscule de l'Empire romain. C'est le titre de ce livre publié aux éditions Kalman-Lévy. Il nous entraîne au tournant du 4e et 5e siècle dans un monde en pleine mutation. Rome doit désormais composer avec les barbares et la nouvelle religion chrétienne commence à se répandre. Voilà le contexte dans lequel évolue Dardanus, un homme ardent et talentueux. Vous allez nous le présenter, Jean-Robert Pitt. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dédiez ce livre à votre frère, c'est lui qui vous a mis sur la piste de Dardanus par un choix de vie assez radical, comme lui. Il s'est retiré avec sa famille dans une sorte de solitude au milieu des montagnes.
Voilà, donc mon frère avait fait, qui est malheureusement décédé, avait fait un retour à la Terre en 68, mais pas du tout dans l'esprit hippie, dans l'esprit plutôt d'une certaine ascèse, d'une recherche de pureté de vie, etc. Et il avait, comme c'était dans la Drôme, il avait à l'époque croisé le chemin, si je puis dire, de Dardanus, puisque c'est les aventures de Dardanus se passent tout près de la Drôme, dans les Alpes de Haute-Provence, près de Sisteron. Et c'est un personnage réel d'un haut fonctionnaire romain, mon frère n'était pas haut fonctionnaire, qui s'est retiré du monde après sa conversion au début du 5e siècle. Et c'est assez fascinant de voir ce grand personnage qui se convertit et qui veut créer en pleine montagne, à 1000 mètres d'altitude, hein, dans un village qui aujourd'hui s'appelle Saint-Geniès de Dromont, une cité de Dieu, parce qu'il a lu saint Augustin, et ça on en est sûr, parce qu'on a une lettre de saint Augustin adressée à Dardanus, et que Dardanus est fasciné par cette cité de Dieu. Alors, comme chacun sait, la cité de Dieu de saint Augustin, c'est au ciel. Dardanus dit, moi je vais d'abord faire une sorte de cité de Dieu sur terre, qui préfigurera, après ma mort, la cité éternelle.
Alors, vous l'avez dit, nous avons tout de même quelques sources sur cet homme. Ouais. Quelles sont-elles exactement? Elles sont assez maigres.
Alors, la principale et la plus fascinante pour moi qui suis géographe, c'est qu'il se retire donc dans ce village des Alpes de Haute-Provence, qui est, pour les géomorphologues, ça s'appelle un val perché. C'est-à-dire, en fait, c'est un vallon un peu circulaire, et qui est perché à 1000 mètres d'altitude. Donc, c'est une forme de géomorphologie bien, bien connue de mes collègues géographes. Et pour y parvenir, pour entrer dans cette conque suspendue, il faut passer par un défilé, une gorge très très étroite, dans une roche très dure, qu'on appelle l'Urgonien, et Dardanus décide d'élargir un peu cette gorge, et il fait graver, il fait aplanir la muraille de roche très dure et très blanche, et il fait graver, en latin bien sûr, une grande inscription dans laquelle il raconte son projet. Il dit, moi, Dardanus, j'ai fait élargir cette gorge, etc. Et avec ma femme, ma chère femme, mon cher frère, je me retire dans ces montagnes pour créer la cité de Dieu, qu'il appelle Théopolis. C'est-à-dire Théopolis, la cité de Dieu, mais non pas en latin, Civitas Dei, mais en grec. Ce qui laisse à penser, tous les archéologues qui se sont penchés un peu sur cette affaire, ce qui laisse à penser que Dardanus, malgré son nom latin avec un US, en fait est un Dardanos, du monde grec, donc sans doute de l'Empire d'Orient, et qui fait sa carrière en Empire d'Occident, ce qui est tout à fait classique à cette époque, mais qui reste très attaché à une culture hellénistique et à la langue grecque, Et donc, je le fais naître en Croatie d'aujourd'hui, dans l'île Lyrie, dans la ville de Split, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Split est une ville portuaire de Croatie, de plan carré, et qui est en fait, la vieille ville est le palais de Dioclétien. Et donc, on se promène dans des rues qui sont les couloirs du palais de Dioclétien, les écuries, les logements, etc., le mausolée de Dioclétien qui est là, et un certain nombre de maisons qui sont les salles du palais. Donc je le fais naître dans ce palais, ce qui est un endroit, moi, qui m'avait, quand je l'avais visité, qui m'avait vraiment fasciné, parce que on met ses pieds dans les pas de Dioclétien. Et Dardanus, donc, fait une grande carrière à travers tout l'Empire romain.
Alors lui, il vient d'une famille aisée, mais pas nécessairement l'une des plus grandes familles de l'Empire. Il progresse grâce à son tempérament ardent de chef de bande, à sa volonté forte. Vous dressez vraiment le portrait d'un homme assez attachant. Même à la fin, vous dites qu'il aurait pu peut-être devenir empereur, enfin par les mots d'un bibliothécaire.
Oui, bien sûr. Il aurait pu, surtout parce que ça s'est produit bien des fois à son époque, il aurait pu être usurpateur, parce qu'il y a bien des moments dans la mesure où c'était sans doute un militaire de très courageux et de grand talent, et pour faire la carrière qu'il a faite, à la fois d'abord militaire, puis ensuite administrative, hein, puisqu'il termine au poste le plus important de l'Empire romain, et ça c'est tout à fait authentique, à cette époque, qui est le préfet du prétoire des Gaules, qui est en poste d'abord à Trèves et ensuite en Arles. Et mais il est d'une famille aisée. Alors moi, j'invente, bien sûr, puisqu'on ne sait rien de sa famille, de la petite noblesse d'Illyrie. Et comme je veux le faire naître dans le palais de Dioclétien, j'imagine que son père est le gardien de ce palais, où n'habite plus l'empereur, mais où n'importe quel empereur, et Dieu sait s'il circule, les empereurs à cette époque, ou membres de la famille impériale, ou très hauts fonctionnaires, peut venir loger quand il passe par là. Donc il faut que le palais soit constamment en état. C'est un peu, ça fait penser, vous savez, à la parabole des vierges folles. Il faut que tout soit prêt à accueillir à n'importe quel moment du jour et de la nuit un empereur. Et donc c'est un poste de fonctionnaire relativement important et surtout très confortable puisqu'il est logé dans le palais, le père de Dardanus. Et mais effectivement, il reçoit une très bonne éducation. Il a un précepteur. Il va dans les bonnes écoles de la ville d'à côté qui s'appelle Salone, qui est la capitale de l'Illyrie, et puis ensuite il décide de se prendre par la main et de faire une vraie carrière courageuse en passant toutes les étapes de soldat jusqu'à général, puis ensuite au fonctionnaire, c'est-à-dire parce que c'est un vrai serviteur de l'État, un amoureux de Rome. Alors, de la Rome païenne, hein, pour lui, il reste païen jusqu'à un âge assez avancé, et pour lui, il est impensable de trahir. Donc, je l'ai voulu comme ça, parce que cette époque, tout ce qu'on connaît sur cette époque est pleine de trahisons, sans arrêt. Et au milieu de toutes ces trahisons, de tous ces gens mesquins ou intéressés par l'argent ou le pouvoir, j'en fais une sorte de héros à la fois méritocratique, puisque c'est un pur produit de la méritocratie, et en même temps fidèle aux valeurs de Rome, et il y en avait à cette époque. Et quand il se convertit, il devient aussitôt et très spontanément fidèle aux valeurs du christianisme qui ne sont pas en contradiction, à part les questions théologiques et religieuses, mais sinon pour le reste, ça va de soi. Pour un grand serviteur de Rome il devient chrétien, il reste grand serviteur de Rome, mais les empereurs sont chrétiens à cette époque et donc il devient grand serviteur de Dieu.
C'est intéressant cette image du palais vide en attente d'un empereur que vous évoquiez à Split, parce qu'on a l'impression que toute sa vie finalement Dardanus est en attente d'un véritable empereur, il en sert plusieurs, mais finalement beaucoup le déçoivent, il leur reste fidèle, mais dans une période très troublée, on perçoit cette attente d'une Rome glorieuse d'une certaine façon, d'une Rome à la hauteur. Il y a Théodose.
Il y a Théodose quand même qu'il sert beaucoup. Et ça, c'est très probable que Dardanus a servi Théodose, alors qu'il était proche de lui. Moi, j'en fais un proche. Et même l'épouse de Dardanus est la nièce par alliance de Théodose, est très protégée par Théodose. Et visiblement, d'après ce qu'il y a sur l'inscription de Saint-Geniès, Dardanus était très amoureux de sa femme, puisqu'il la mentionne juste à côté de lui. sur l'inscription, ce qui n'est pas si fréquent sur les inscriptions. Il mentionne son frère aussi. Donc Théodose est un très grand personnage, mais alors à la fin de sa carrière, quand il est au plus haut de sa carrière, avant d'un seul coup d'y mettre fin et de se retirer dans les montagnes, c'est Honorius qui est un fils de Théodose et qui lui est vraiment quelqu'un d'un peu falot et sans grande envergure, mais que Dardanus sert quand même avec beaucoup de fidélité et luttant contre les barbares et les usurpateurs qui sont nombreux à cette époque. Il y en a même un qui termine sous l'épée de Dardanus.
Nous sommes à une époque troublée, vous le dites. Rome doit composer avec les barbares. Et cette époque, vous dites aussi que vous l'avez découverte lors de vos premiers cours en Sorbonne,
oui.
dans un cours consacré à Rome au IVe siècle. Qu'est-ce qui vous fascine, vous intéresse dans cette période de grandes mutations?
Écoutez, moi je suis géographe, mais comme ça se faisait plus à mon époque que maintenant, j'ai suivi un certain nombre de certificats d'histoire, et les cours étaient mélangés avec les historiens, et il y avait quelques très grands historiens dont j'ai encore le souvenir, et comme on était très nombreux, c'était encore la Sorbonne unifiée, il n'y avait pas toutes les universités parisiennes, donc on remplissait le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et j'ai le souvenir, alors c'était pas un orateur exceptionnel, mais c'était un très grand savant, qui a été membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'ailleurs, William Seston, et qui, pendant une année, on a eu un cours sur Rome au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, il insistait plutôt sur le début du IVe siècle, lui, parce que c'était sa vraie passion, et puis parce que c'était très compliqué, c'est-à-dire sur Constantin et la conversion de Constantin. Et donc, j'avais gardé... En fait, je n'avais pas fait le rapprochement avec Dardanus. C'est en décidant d'écrire ce texte que je n'ai pas retrouvé mes papiers de cours, mais j'avais encore... Finalement, quand on est jeune, on retient les choses... Et j'avais en tête encore ces querelles autour de l'arianisme, alors qui existent encore sous Dardanus, ça c'est authentique. Et Dardanus, lui, quand il se convertit, il devient nicéen, c'est-à-dire il se convertit au christianisme officiel et rattaché à Rome, et que déjà l'autorité du pape. Mais j'ai évoqué tous ces grands débats théologiques, évidemment, qui dans la deuxième partie, qui sont très importants encore à cette époque. Avec des luttes fratricides et souvent les opposants à l'empereur, les usurpateurs, sont ariens, encore à l'époque de Dardanus. Alors après, l'arianisme disparaît, mais il y a bien d'autres hérésies qui apparaîtront.
Alors la conversion de Dardanus arrive assez tardivement dans sa vie, mais on sent qu'elle est préparée par de nombreuses rencontres. Les grandes figures abondent dans votre récit. Il y a Ambroise de Milan, Martin apparaît de façon un peu fugace, Jérôme, mais celle qui surplombe tout, c'est Saint-Augustin, présent à travers les confessions. C'est vraiment un contemporain de Dardanus, et vous dites qu'il lui ressemble par bien des aspects. Et aussi, La Cité de Dieu, ce livre qui lui donne peut-être son projet...
Oui, alors, on ne sait rien, évidemment, des relations entre Dardanus et Augustin, sauf... qu'une fois sa conversion acquise, et sans doute au moment où il s'est déjà retiré, où il va se retirer dans ses montagnes, il quitte Arles, donc il écrit à Dardanus et lui pose une question théologique importante, que tout simplement, mais comment Jean-Baptiste a-t-il fait pour tressaillir dans le ventre de sa maman lorsque Marie, enceinte de Jésus, est arrivée? Et donc Saint-Augustin lui répond une grande, grande lettre à ce sujet. Donc on sait qu'il a correspondu avec Saint-Augustin, peut-être d'autres lettres aussi, mais on n'a pas la lettre de Dardanus, mais on a la réponse, et dans la réponse, Saint-Augustin évoque la question de Dardanus. Il y a une autre lettre aussi que l'on possède de Saint-Jérôme, authentique, avec d'autres questions théologiques, mais là j'ai pas le temps d'y insister, où Dardanus pose des questions à Saint-Jérôme, qui répond le jour même, tellement Jérôme comme Augustin sont très impressionnés que Dardanus, haut fonctionnaire, se soit converti. Ils le savent, ça fait beaucoup de bruit dans l'Empire. Quand un païen de ce niveau se convertit, on en parle, hein, c'est impressionnant. Et donc, pour ne rien vous cacher, ça va paraître curieux, mais je n'avais jamais lu les Confessions de Saint-Augustin. Et donc, quand j'ai décidé d'écrire ce livre à la faveur du confinement, bien heureuse Covid qui a permis... Alors les éditeurs sont noyés sous les manuscrits. Bon, par chance, le mien a été finalement retenu. Mais donc j'ai lu d'abord les Confessions de Saint-Augustin, parce que je savais que ça se passait à la même époque, et j'ai été littéralement fasciné par ce livre, qui à cette époque, quand même, c'est très lointaine, hein, il y a 1500 ans, Saint-Augustin se dévoile complètement et parle de sa jeunesse, avec regret bien sûr, puisque après sa conversion, il change de vie, mais parle des folies de sa jeunesse, et donc je me suis dit... je vais un peu transposer, puisqu'ils se connaissaient, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, je vais un peu transposer les Confessions de Saint-Augustin autour de ce personnage de Dardanus, et donc je lui prête une jeunesse folle. Voilà.
Il aime tous les plaisirs de la vie.
Alors, il aime tous les plaisirs de la vie, et il considère, une fois sa conversion acquise, très, très tard, hein, il a 55 ans, qu'il n'y a pas de raison de renoncer aux plaisirs de la vie parce qu'on se convertit. Donc, j'essaye de montrer une vision du christianisme qui n'est pas une vision puritaine ou janséniste. Bon, ça, c'est un anachronisme de parler de jansénisme, mais il y a toujours eu dans le christianisme cette tendance au refus des plaisirs qu'on voit dans d'autres religions aussi, et qui, pour moi, est assez contraire à l'esprit de l'Évangile. Donc, j'ai voulu là montrer que, même si les frasques de la jeunesse de Dardanus sont pour lui regrettables à partir du moment où il se convertit, déjà, il change de vie complètement quand il rencontre sa femme. Mais là, il est encore dans la force de l'âge. Hein. Il a une trentaine d'années, mais il tombe follement amoureux.
C'est une histoire d'amour aussi, votre roman.
C'est aussi une histoire d'amour, oui. Et je pense que j'ai essayé, si vous voulez, il y a trois formes d'amour. Il y a l'amour physique, il y a l'amour humain et il y a l'amour de Dieu. Hein. Et c'est, vous avez Eros, Agapé, et après Philé, c'est le grand amour, l'amour avec un grand A, et l'amour de Dieu. Et Dardanus passe par toutes ces phases sans renoncer aux premières, ce qui, je crois, est conforme à l'esprit de l'Évangile et à l'esprit du christianisme. Hein. Quand Pascal dit qu'il veut faire l'ange, fait la bête, je pense que les chrétiens n'ont pas toujours bien compris ce que ça veut dire, et que renoncer, alors quand on peut renoncer au plaisir de l'existence et mener une vie d'ascèse, c'est tout à fait recommandable et possible. Mais c'est pas donné à tout le monde. On le voit par exemple, alors c'est un peu plus tardif que Dardanus, mais dans la règle de Saint Benoît, où Saint Benoît, qui écrit du fin fond de son monastère au Mont Gargano, dit, bon ben voilà, ceux qui peuvent se priver de ceci, de cela, de sommeil, de nourriture, de vin, très bien, qu'ils le fassent. Mais le Père Abbé fera très attention, parce que tout le monde n'en est pas capable. Et donc ceux qui n'en sont pas capables, il faut les traiter avec douceur et avec mansuétude. Et Dardanus ne renonce pas au plaisir, c'est un fou de vin, quelqu'un, un confrère de l'Académie française m'a dit, c'est formidable parce que ton livre, c'est un vrai guide Michelin du 5e siècle après Jésus-Christ.
Et
donc
oui.
je décris...
Beaucoup de repas,
j'invente, j'en invente, mais tout est plausible. En tout cas, il n'y a aucun produit, parce que parfois, dans des ouvrages romancés sur l'Antiquité, on trouve bizarrement des produits qui sont arrivés au XVIe siècle, au moment de la découverte de l'Amérique, comme la tomate ou de choses comme ça, ou l'aubergine qui n'existe pas à cette époque. Donc, c'est tous les produits et tous les plats, même si certains n'ont peut-être pas existé à cette époque, sont plausibles. Alors, évidemment, j'ai transposé un certain nombre de plats d'aujourd'hui. Par exemple, on y mange du jambon persillé à la Bourguignonne, en Bourgogne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu du jambon persillé à l'époque, mais c'est possible, puisqu'on savait saler la viande, on avait du persillé, de l'ail et du vin blanc, donc voilà. Et je lui fais goûter tous les vins de l'Antiquité, en particulier, et ça c'est tout à fait plausible, au début de sa carrière, il rencontre un très grand personnage et très grand écrivain qui s'appelle Ozone, qui est propriétaire de grands domaines à Bordeaux et très amateur de vin, mais ça on le sait, c'est authentique, et qui a probablement une cave très très bien garnie, et le meilleur de ses vins vient de la région de Saint-Émilion aujourd'hui, et certains pensent, alors on n'a pas de preuve absolue, que ce meilleur vin d'Ozone, c'est aujourd'hui le château Ozone, qui est un premier grand cru classé de Saint-Émilion, et donc je fais évidemment partager une amphore de ce château, de ce vin d'Ozone, qui voit que Dardanus, qui est jeune encore, mais qui aime le vin, lui ouvre pour lui une amphore. Et Dardanus ne le récompense pas de manière très, très, très glorieuse. Mais j'ai laissé quelques parties de ce roman dans l'ombre.
Nous ne dirons
surtout
pas
qu'elle est partie scabreuse.
Tout un à peu fait, scabreuse. Notamment cette nuit-là. En fait, tous les grands événements de la vie de Dardanus sont marqués par des banquets, son départ de Split, sa rencontre avec Ozone, sa rencontre avec sa femme aussi. Et le jour de son baptême, c'est peut-être le jour où tous les plaisirs sont unis. À la fois, il y a un grand banquet thématique, il y a cette cérémonie, et puis la soirée aussi avec sa femme. C'était important ce jour-là de donner une place particulière.
Comme je l'imagine très, très gourmet, voire gourmand à certains moments, le jour de sa conversion, j'imagine qu'il n'est pas question qu'il ne fasse pas la fête ce jour-là. Et donc j'imagine qu'il fait un repas comme Jésus aurait pu en faire un, avec les produits ou les plats qu'on évoque dans les évangiles. Alors on ne trouve pas tout, les poissons du lac de Tibériade, on ne les trouve pas, mais il fait venir du Saint-Pierre de Marseille, etc., puisque ça se passe en Arles. Et donc j'imagine un banquet christique. Et puis il y a un autre banquet aussi, mais qui est évoqué, je crois, au début, puisque je mets le dernier chapitre au début, qui est le banquet de l'inauguration de la pierre écrite, c'est-à-dire de cette grande dalle, et de la cité de Dieu, c'est-à-dire du village, du locus, où il construit un certain nombre de maisons avec des thermes, là, dont il ne reste rien, malheureusement. On ne sait absolument rien sur cette cité de Dieu, archéologiquement, et une chapelle, et bien sûr, il offre un banquet, mais cette fois-ci, c'est un banquet qui est élaboré avec uniquement les produits du lieu, c'est-à-dire que les produits de la ferme, les produits de la cueillette, c'est au printemps, donc il y a des asperges sauvages et des morilles, il y a des truites pêchées dans le torrent, c'est un banquet magnifique, mais extrêmement rustique, simple, et sans aucun des produits de luxe que les riches romains utilisaient à l'époque, comme le garum, les épices, etc., donc il n'y a rien de tout ça.
Vous dites que ce livre est un hommage à votre frère, mais est-ce que Dardanus, ce ne serait pas aussi un peu vous, quand on voit ce goût du voyage, ce goût des bonnes choses, du vin ?
Oh, je pense que quand on écrit un roman, ce qui n'était pas du tout dans mes habitudes, enfin, j'ai découvert ça, il est probable qu'on se projette un petit peu soi-même, mais il y a beaucoup d'autres personnages aussi que j'ai rencontrés dans ma vie ou que je connais et qui se retrouveront dans Dardanus, qui est un mélange de plein de personnages. Alors, moi, tel qu'il est, je le trouve attachant avec ses qualités, avec ses nombreux défauts aussi, mais c'est un personnage complexe et assez réel, dont le meilleur côté est quand même la fidélité aux valeurs. Même s'il n'est pas toujours fidèle en amour, surtout quand il est jeune. Après, il se calme quand même beaucoup, beaucoup. Mais il est fidèle aux valeurs de Rome. Et ça, c'est ça aussi que j'ai voulu dire. C'est quand même, il y a un petit message subliminaire dans la période actuelle où beaucoup de responsables politiques et de hauts fonctionnaires, sont un peu hésitants quant aux valeurs, et on le voit bien, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il ne fascine pas suffisamment les électeurs quand il y a des élections. On a mis avec l'éditeur ce sous-titre, Une âme forte au crépuscule de l'Empire romain, quand tout a l'air de foutre le camp, je pense qu'il y a moyen de résister, même si on est minoritaire, même si on est tout seul, ça n'est pas grave, il faut défendre ses valeurs, mais avec panache, avec sourire et avec joie. C'est pas un personnage scrogneux, Dardanus, c'est un personnage heureux de vivre et flamboyant.
Alors, à la fin de sa vie, il fait ce choix radical de se retirer de la vie publique et de choisir la solitude avec sa famille. Comment vous imaginez ce lieu très particulier qu'était Théopolis ? Et dont on ne sait rien.
Là, on est obligé de l'imaginer. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'exemples, parce que cette époque-là, le début du 5e siècle, c'est le moment où... Il y en a bien plus tôt en Égypte. D'abord, il y a les ermites qui se retirent au désert tout seuls. Mais la vie monastique, elle commence à peu près à cette époque. Alors donc, c'est Bethléem où Saint Jérôme crée un monastère à Bethléem avec un certain nombre de gens autour de lui, alors que lui avait une mentalité d'ascète. Mais finalement, il crée un monastère. Et puis, on a en France deux monastères qui se créent à cette époque et dont je parle aussi dans le roman, dont un qui est le plus ancien, donc qui est les Reims, avec Saint Honorat, et je mets Saint Honorat en scène aussi, qui joue un rôle important à côté de Dardanus, vous avez le monastère Saint-Victor à Marseille aussi, qui est un très grand monastère, mais ça, ce sont des hommes qui font vœu de pauvreté, de chasteté, et qui se retirent ensemble. et qui vivent selon une règle, dans une communauté fermée. Tandis que Dardanus, lui, qui est marié, qui a des enfants, qui a un frère aimé, etc., se retire avec son entourage dans la montagne. Donc on ne sait rien, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de retrait de ce genre, mais il se trouve, comme je vous l'ai dit, que mon frère avait un peu fait ça dans un petit village perdu du Diwa, au-dessus de Di, à 1000 mètres d'altitude, et donc a essayé, bon, je ne veux pas raconter la vie de mon frère, et le bilan est compliqué de cette aventure, mais Dardanus, par ce qui est écrit sur l'inscription, fait cela. Et il se retire dans ce village, sauf que dans le lieu qui est juste après l'inscription, à 1 kilomètre, 2 kilomètres, où théoriquement a pu exister cette Théopolis, cette cité de Dieu, on ne trouve rien. Il y a quelques années, apparemment, on trouvait des tessons de tuiles un peu dans les champs, mais il n'y a aucun vestige archéologique. Alors peut-être que si on faisait des fouilles, mais personne n'a jamais tenté de fouiller. Il y a un site un peu plus loin, à 5-6 kilomètres, toujours sur la commune de Saint-Geniez, qui lui est manifestement très très complexe sur le plan religieux, puisqu'il y a des traces de culte antique, pré-celtique, de culte romain, de culte chrétien. C'est une chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Dromont, mais qui n'a rien à voir avec Théopolis. Et donc c'est un grand mystère. Mais peut-être même que cette Théopolis n'a jamais existé. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi y aurait-il cette inscription si fantastique qui est classée monument historique depuis 1,5 siècle? Donc c'est pourquoi j'ai choisi j'aurais été plus à l'aise d'écrire un livre d'histoire, même si je ne suis pas spécialiste de l'Antiquité. Mais on sait si peu de choses que je n'avais pas d'autre solution pour raconter ça que d'adopter le style roman. Et pour moi, en tout cas, ça a été un grand plaisir de découvrir l'écriture romanesque.
La fin est assez dramatique. Je ne vais pas la dévoiler pour autant. Mais est-ce que ce projet était trop beau pour être vrai d'une certaine façon ?
Non, ça montre que les œuvres humaines sont périssables et on ne bâtit pas pour l'éternité. L'orgueil de Rome, c'est de bâtir pour l'éternité. L'humilité du christianisme, c'est de bâtir dans l'au-delà pour l'éternité. Mais tout ce qu'on peut faire sur Terre, ça s'écroule un jour ou l'autre, de tremblement de terre ou autre. Donc rien n'est durable sur cette terre, alors que Rome, la ville de Rome, a été bâtie pour... les chrétiens ont gardé cette expression de ville éternelle, mais la vraie ville éternelle avec un grand V, c'est la Rome de l'au-delà, ou la Jérusalem céleste. Mais sur terre, il faut vraiment savoir que ça va périr un jour ou l'autre. Encore que, quand on voit je le mets en scène à un moment dans le roman, la manière dont ont duré certains monuments romains en parfait état, je pense au Panthéon de Rome, qui est pour moi un des monuments les plus fascinants qui existent, le projet de Rome a presque réussi, mais c'est quelques monuments. En fait, ce qui... ne reste que les valeurs. Celles-là peuvent durer. Aussi bien les valeurs de Rome que les valeurs du christianisme. Mais le civisme, qui est au cœur de la civilisation grecque et de la civilisation romaine, ça veut dire quelque chose. Et je pense que ça... mon projet, c'est de dire à mes contemporains, revenez aux valeurs du civisme. Sinon, notre pays va s'écrouler et le peu de civilisation que nous avons va disparaître complètement. Le civisme, c'est l'art de vivre ensemble dans un état de droit, avec des règles qu'on respecte. Et en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de nos contemporains, de toute génération, qui continuent à croire à ces valeurs. Donc c'est aussi un petit clin d'œil, cette vie de Dardanus, faite de même.
Est-ce que cette expérience d'écriture romanesque vous a donné d'autres envies sur ce terrain ?
Bah oui, bien sûr. Je me suis dit, si ça marche et si ça rencontre un peu, ça intéresse un certain nombre de gens, j'ai plein d'autres projets possibles. Mais j'ai aussi des projets d'écriture non romanesque, scientifique, donc il faut que je mène tout ça à bien dans les quelques années qui me restent à vivre.
Eh bien,
peut-être que si je me retire d'ailleurs dans la montagne...
La production sera plus intense.
plus intense.
Merci Jean-Robert Pitt. En attendant vos prochains livres, nous pouvons lire Dardanus, une âme forte au crépuscule de l'Empire romain. Et c'est aux éditions Calmann Lévy.
Merci infiniment.
À bientôt.
À bientôt.
Thank you.